France Inter.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans Grand Bien vous fasse. L'adolescence, cette période magique où nos enfants deviennent allergiques aux règles de la maison, experts en soupirs et champions de la flemme. Pour traverser ce passage crucial de la vie de nos enfants, il nous faut une bonne dose d'humour, mais aussi garder les yeux bien ouverts. Les données récentes montrent que la santé mentale des adolescents se fragilise avec davantage d'anxiété, de stress et parfois un profond sentiment d'isolement. Dans ce contexte, le rôle des parents est fondamental, mais difficile pour eux de savoir sur quel pied danser. Les ados ont besoin d'un cadre clair pour se sentir en sécurité, mais aussi et surtout d'une chose qu'ils ne savent pas toujours demander, la tendresse et la bienveillance de leurs parents. Alors comment maintenir ce lien quand nos ados semblent tout faire pour le rejeter? C'est notre sujet du jour et on attend vos témoignages de parents, de beaux-parents et même grands-parents au 01 45 24 7000 ou sur l'appli Radio France. Nous sommes le jeudi 21 août. Grand bien vous fasse, en direct tout l'été pour vous accompagner.
France Inter. Grand bien vous fasse. Yasmine Oublis.
À ton âge, tu ne peux pas sortir sans...
Ça fait rien, laissez tomber. De toute façon, vous en avez rien à foutre. Pensez qu'à vous. Vous n'êtes même pas aperçu que j'ai paumé ma gourmette en or, que j'ai raccourci ma frange, vous l'avez même pas vu. J'ai plus rien à mettre, j'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous avez même plus le temps de me faire réciter mes sons, ni de me faire à bouffer. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse.
Mais qu'est-ce qu'elle a ?
13 ans.
Vous avez bien reconnu cette scène mythique du film La Boum, sortie en 1980. Ce qui est formidable avec cette scène, c'est qu'en 2025, elle reste d'actualité. Vous pourriez vivre la même chose ce soir avec votre adolescent en rentrant. Nos invités ce matin sont justement là pour nous aider à mieux les comprendre, ces adolescents, et à vivre une vie de famille plus apaisée. Bonjour Anne-Claire de Pracontal.
Bonjour Yasmine.
Vous êtes psychologue. Vous avez cofondé avec Eric Assédou la plateforme I Am Strong pour accompagner les parents et les adolescents. Vous avez également coécrit avec Eric Assédou « Je ne sais plus quoi faire avec mon ado » édité chez Marabout. C'est donc des conseils que vous allez nous donner ce matin. Bonjour Laure Gessler.
Bonjour.
Docteur Laure Gessler. Ouais. Vous êtes médecin généraliste et vous œuvrez pour la santé mentale et physique des jeunes à travers notamment le podcast Le Passage que vous avez créé et une newsletter Le Cœur Net, une newsletter indispensable disponible toutes les deux semaines sur abonnement gratuit. Bonjour Antoine Perrier.
Bonjour Yasmine.
J'en perds un petit peu ma voix quand je parle des ados. Vous êtes psychologue à la Maison des adolescents de l'hôpital Cochin à Paris, une structure qui est dédiée à l'accueil sans rendez-vous des enfants de 11 à 19 ans, mais aussi de leurs parents. Bonjour Mia Labitbol.
Bonjour.
Vous êtes l'ado du plateau, elle va nous tuer, je pense, quand je vais lui dire ça. Vous avez 18 ans, vous les avez eu il y a quelques mois. Vous êtes très populaire auprès des ados qui vous connaissent en tant que créatrice de contenu sur les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présente depuis plusieurs années. Il y a un an, vous avez créé l'application Link pour favoriser le lien entre les parents et leurs adolescents. Merci déjà pour nous les parents et nos enfants. Et aussi pour venir en aide aux ados qui, comme vous, il y a quelques années, traversent une période difficile. Mia Labitbol, vous avez 18 ans. Déjà, ma première question, c'est comment vous situez-vous? Est-ce que vous êtes toujours une ado? Est-ce que vous êtes une adulte?
Bah, pour moi, je suis un peu fin de l'adolescence, mais jeune adulte, mais je suis un peu entre les deux, parce que c'est un cap pas très clair, je pense, à définir. Enfin, quand est-ce que je termine mon adolescence? Quand est-ce que je suis jeune adulte? Mais je suis plus du côté jeune adulte, parce qu'aujourd'hui, bah, je travaille pour Link, je fais plus mes études. Je suis à full time sur ce gros projet. Donc, je pense que je me rapproche plus de jeune adulte que d'adolescence aujourd'hui.
Bah, rassurez-vous, c'est un peu flou pour nous aussi. Hein, la fin de l'adolescence, on ne sait jamais trop comment elle va se terminer, quand elle va se terminer. L'idée, c'est justement qu'on fasse un petit point sur cette période. On va le faire ensemble et on commence avec vous, docteur Laure Gessler. Vous êtes médecin généraliste et vous consacrez un podcast, je l'ai dit, et une newsletter à cette période qui est l'adolescence. Pourquoi vous êtes intéressée à cette période un peu mystérieuse?
Ouais, alors j'ai beaucoup d'empathie, moi, pour les ados. C'est une période mystérieuse à la fois pour eux. Ils sont plein de questions. C'est une période quand même qui est compliquée, il faut dire ce qui est, entre l'actualité, l'écologie, l'après-Covid. Mais aussi, j'ai de l'empathie pour les parents. Je suis moi-même maman de pré-ados. Et je trouve qu'on n'a pas forcément les armes. On a souvent beaucoup de bonne volonté. On a envie de bien faire, mais on fait des erreurs, on le sait. Et je pense que c'est important d'avoir des outils. Savoir déjà en parler, lever briser des tabous, savoir comment communiquer avec notre ado, garder le lien. Et tout ça, ça se met en place et ça s'apprend. J'ai envie de dire ça, c'est pas forcément intuitif et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de parents qui, heureusement, s'intéressent à la question, posent des questions, notamment sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai une chaîne là, qui s'appelle Le Cœur Net et les parents posent des questions et disent qu'est-ce que je peux faire pour gagner de la confiance en soi à mon enfant, etc.
Le rôle de parent, de toute façon, s'apprend au fur et à mesure de la vie et c'est un apprentissage permanent, je pense. Sur le plan médical, si on ne sait pas trop quand elle se termine, l'adolescence, est-ce qu'on sait quand elle commence ?
Oui, alors elle commence... Alors c'est vrai que c'est un terme quand même assez général. Il faut quand même l'expliquer que c'est une transition. C'est quelque chose qui se fait progressivement. Donc il y a déjà des signes pubertaires qui vont arriver chez les jeunes filles, chez les jeunes garçons. Ça peut être vers déjà 10 ans environ. Ça, c'est les premiers signes. Mais il y a aussi ensuite toute une maturation cérébrale, psychologique, sociale. Donc en général, elle démarre à ces moments-là.
Elle démarre à ce moment-là. Quand on pense à adolescence, on pense au changement d'humeur, beaucoup. On a l'impression de ne pas reconnaître notre enfant. Comment est-ce que les transformations hormonales et corporelles influencent le comportement des ados ?
Ouais, c'est une bonne question, en fait. C'est-à-dire que, on peut se souvenir aussi de l'ado qu'on était.
On va en parler, ça.
C'est quand même pas simple. Ouais. Les premières règles, la transformation corporelle, les poils, les odeurs, tout ça, c'est des choses qui nous tombent un petit peu dessus. Et ça va jouer sur nos émotions aussi. On a aussi une sorte de cocktail. On se construit, on essaye de gagner en autonomie, d'évoluer. Et tout ça, c'est pas simple. C'est pas forcément simple. Après, je tiens à dire quand même que ça peut aussi très bien se passer.
Oui.
Il y a quand même pas mal de jeunes chez qui ça se passe bien et ça se déroule facilement, surtout si on a mis en place des bases assez solides et avec beaucoup de communication.
Antoine Perrier, vous recevez des adolescents de 11 à 19 ans au sein de la Maison des adolescents de l'hôpital Cochin. Selon vous, qu'est-ce qui caractérise le plus l'adolescence aujourd'hui par rapport à il y a 15 ou 20 ans ?
Mais je crois qu'il y a des choses qui ne changent pas dans l'adolescence. Laure l'a dit. Il est certainement assez difficile, et on serait peut-être pas tous d'accord pour dire lorsque l'adolescence se termine, mais on est à peu près d'accord pour dire lorsque ça commence, comme le disait Laure, avec la puberté. Mm-hmm. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Par contre, ce qui change dans l'adolescence, c'est cette dimension sociale dans laquelle l'adolescence construit et qui influence aussi ce chemin de développement. Il y a aussi une chose qui ne change pas, c'est que l'adolescence, d'un point de vue psychique, c'est la quête de l'autonomie, c'est un besoin de construction de l'autonomie, et cette autonomie, elle se gagne sur une nécessaire distance à prendre vis-à-vis des parents. Mmh. Et ça ouvre l'adolescence à un paradoxe, ça. C'est-à-dire que d'un côté, les adolescents, ils ont besoin de prendre une distance, l'émergence aussi de la sexualité qui est une conséquence de la puberté, quelque chose qui introduit une distance nécessaire avec les adultes. Il y a ce besoin de distance et en même temps, dans les moments de fragilité, il y a besoin de trouver chez les adultes un point d'appui pour se rassurer et pour continuer à avancer. Et cette tension entre justement besoin de distance et d'autonomie et en même temps besoin d'appui sur les adultes, elle n'est pas toujours facile à gérer pour les adolescents et pas facile à gérer aussi pour les adultes qui parfois sont un petit peu déboussolés entre le sentiment d'être un peu transparent et puis par moments le sentiment d'être un peu appelé par les adolescents, voire exhorté lorsqu'ils en ont besoin.
C'est un vrai rôle d'équilibriste que celui de parent pendant l'adolescence de leur enfant. Anne-Claire de Pracontal, vous qui les accompagnez à travers une plateforme que vous avez dédiée à l'accompagnement des parents et des ados, selon vous, quelle est leur problématique principale ?
Oui, en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a vraiment cette tension, comme vous disiez, entre... entre ce besoin très fort d'autonomie, très fort d'indépendance, très fort de séparation nécessaire et très sain pour arriver petit à petit à se construire en tant qu'adulte, en tant que personne à part entière, et en même temps on reste encore un enfant, il y a encore des choses qui sont encore très immatures, qui sont de toute façon en cours d'intégration, en cours de maturation. Donc il y a effectivement ce paradoxe qui rend les relations un peu plus compliquées, un peu plus difficiles, ou en tout cas différentes, où ça demande un ajustement et de la part des parents et de la part avoir des enfants. Voilà, il y a ce lien, effectivement, ces liens d'attachement. Dans l'enfance, les figures d'attachement premières sont les parents, et qui vont être un peu relégués au deuxième plan, au détriment des amitiés qui vont devenir très très fortes.
L'aspect social qui prend beaucoup de place.
Exactement, qui prend toute la place au collège, en fait. C'est vraiment le sujet de préoccupation numéro un pour les adolescents, c'est leurs amis, en fait. Et c'est pas forcément facile.
Oui, c'est pas facile pour les parents de savoir se positionner. On a la chance ce matin d'avoir Miel Abitbol qui est avec nous, qui est la représentante des ados de France sur ce plateau. Vous êtes en lien permanent avec eux à travers les réseaux sociaux. Comment ils la décrivent, la relation qu'ils ont avec leurs parents?
En fait, moi, ce que je vois beaucoup comme retour de la part des jeunes, que ce soit dans mes messages, dans les commentaires et tout, c'est qu'énormément disent que leurs parents ne les comprennent pas. Et je pense qu'aujourd'hui, les parents et les jeunes, il y a un énorme gap générationnel qui s'est créé entre les deux mondes, hein, parce que faut pas le nier, il y a quand même eu l'arrivée du numérique, des réseaux sociaux. Enfin, il y a eu beaucoup de changements sur cette dernière génération, la génération Z et encore plus la génération Alpha. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup de différences et que autant les jeunes n'arrivent pas nécessairement à comprendre leurs parents et les réactions qu'ils peuvent avoir vis-à-vis d'eux, et autant les parents n'arrivent pas à comprendre les jeunes parce que c'est tout un nouvel univers dans lequel ils ont du mal à se plonger. C'est beaucoup d'incompréhension de la part des jeunes, en fait, mes parents ils me comprennent pas, ils veulent pas m'aider, ils veulent pas me comprendre, ils essayent même pas. Ils se sentent vachement rejetés, eux, je trouve, dans leur période de l'adolescence, alors que peut-être c'est l'inverse aussi de leur côté.
Yasmine Ouglisse.
En fait, maman, j'ai demandé à papa pour l'Inde. Il est d'accord?
Non, hors de question, c'est beaucoup trop dangereux.
Mais ça va, maman, je suis plus une gamine.
Grand bien vous fasse.
Vous comprenez pas que j'ai qu'une envie, c'est de me barrer d'ici. J'en peux plus.
Sur France Inter.
J'étouffe.
La puberté est un passage obligé dans la vie de l'enfant qui occasionne des changements de toutes parts, et ces changements sont parfois difficiles à gérer pour l'enfant lui-même, mais aussi pour son entourage. Docteur Laure Gessler, le terme de crise d'adolescence souvent utilisé pour décrire cette période de la vie de l'enfant, vous le détestez. Expliquez-nous pourquoi.
Clairement, je le déteste. Parce que par crise, on imagine le gros clash, quelque chose d'ultra conflictuel forcément, et c'est un petit peu gênant. L'adolescence, c'est un passage, c'est le terme que j'utilise effectivement dans le podcast, mais c'est une transition entre la période de l'enfance et l'âge adulte. Cette transition, cette adolescence, elle est obligatoire, tout le monde passe par là, nous, nos enfants. Par contre, le terme de crise, de clash, pas forcément. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que c'est un processus qui est normal. L'enfant, il se différencie, il gagne en autonomie. Et nous, à notre niveau, comment on peut accompagner? Comme ça a été dit tout à l'heure, l'idée, c'est d'amener du cadre et avec de la souplesse dans le cadre, et essayer de s'intéresser aussi aux ados, tu le disais, Miel, à ce qu'ils peuvent aimer et ce qui peut paraître complètement flou ou absurde pour nous, s'y intéresser, et puis montrer aussi que les ados, ils peuvent avoir des centres d'intérêt et des passions qui méritent d'être valorisées.
Anne-Laure de Pracontal, cette dénomination de passage, je crois que vous l'aimez bien, vous aussi, et pourtant, souvent, en tant que parent, on redoute ce passage, on a peur, on craint ce qui va. On se dit jusqu'ici, tout va bien. Quand peut-on considérer que ça se passe bien, justement?
Oui, c'est vrai, on a peur, on entend beaucoup. En plus, on entend tout. Quand on a des enfants petits, on entend toujours petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes. Donc c'est sûr que ça ne met pas en confiance, forcément. Mais évidemment, ça peut, comme vous disiez, Laure, très bien se passer. Ça donne lieu à des difficultés, comme n'importe quelle période de avec les enfants. Mais oui, ça peut aussi très bien se passer. L'important, je pense, quand même, à l'adolescence, c'est quand même de toujours garder le lien. Oui, d'accepter effectivement cette séparation, de bien vivre cette séparation, même si c'est pas forcément facile, même si on va pas forcément reconnaître nos enfants, même si les liens vont un peu se changer, les relations vont un peu changer, mais quand même de garder un lien, de garder une communication, d'avoir un enfant qui quand même comprend que la maison, ça reste un lieu de sécurité, un lieu ouvert où on peut tout dire, où il sera pas jugé, où s'il fait une bêtise, il pourra le dire, il pourra revenir à la maison et il sera pas engueulé, ou en tout cas, il aura le soutien de ses parents. C'est important aussi de garder le lien et de partager des choses avec ses enfants, des choses légères en dehors du cadre scolaire. Ils ont quand même souvent, ils ont suffisamment de pression aussi à l'école, etc. Donc de partager des week-ends, des vacances, des soirées, des activités sportives. Voilà, quand même au maximum, quand même, d'avoir ces moments légers d'interaction.
Pas que autour des règles, du cadre.
Exactement. Et du quotidien tension, un peu pénible.
Mmh. bien sûr. Antoine Perrier, vous recevez les adolescents généralement quand ça se passe pas très bien. Quels sont les signes qui doivent nous alerter en tant que parents?
Alors, juste au préalable, je voudrais dire, je suis assez d'accord avec l'idée que j'aime pas beaucoup non plus, moi, cette idée de crise d'adolescence. L'adolescence n'est pas une crise en soi, c'est un processus qu'on a défini. Et je crois que considérer que l'adolescence est une crise, c'est complètement mettre de côté la créativité. Et une grande majorité d'adolescents, fort heureusement, vivent l'adolescence comme quelque chose de très créatif, d'expérience exaltée, d'expérience intense. Et pour cette grande majorité d'adolescents, l'adolescence se passe globalement bien.
Vous avez raison de le dire.
Hein, et voilà, il faut le dire. Alors je parlais, quand ça se passe moins bien, c'est-à-dire que l'adolescence n'est pas une crise, mais il peut y avoir des moments de crise, des moments de difficulté qui tiennent à la fois la vulnérabilité de certains adolescents, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et je crois que l'idée de crise, des crises qui peuvent survenir au cours de ce processus adolescent, ça tient toujours à l'ado dans la relation aux adultes et dans la relation aux parents. C'est-à-dire que la façon dont la crise va s'exprimer, elle tient encore une fois aux vulnérabilités de l'adolescent, mais aussi à la façon et à la qualité de la réaction et de l'attitude que vont avoir les adultes et les parents pour accompagner et gérer ces moments compliqués. Le paradoxe à l'adolescence, c'est que plus l'adolescent est fragile, plus l'adolescent est fragile, plus il est dépendant des adultes qu'il y a autour de lui, et plus cette dépendance est vécue comme un pouvoir que les adultes ont sur lui, et c'est intolérable.
Mal vécu.
Voilà, c'est-à-dire que le paradoxe difficile à l'adolescence, c'est que ce sont ceux qui ont le plus besoin des adultes pour s'appuyer compte tenu de leur insécurité, bien ce sont eux qui sont le plus en difficulté pour trouver chez les adultes ce dont ils auraient besoin.
C'est ce qui est difficile pour eux, pour les parents. Je le disais, quels sont les signes en fait qui peuvent alerter sur un mal-être?
Alors, il y a le mal-être adolescent, je dirais normal. C'est un moment compliqué, et on l'a dit, ce moment, il est particulièrement compliqué avec les parents. Donc, il y a un élément qui, je dirais, est plutôt de bon pronostic. C'est lorsque les difficultés, c'est lorsque les inquiétudes parentales se cantonnent à l'environnement familial et qu'à l'extérieur, il y a une vie sociale, il y a quelque chose de différent. Voilà, c'est un peu la caricature du « il ne fait rien, c'est un beauf, il est… » Enfin, beauf au sens « rien ne semble intéresser », mais par contre, quand il est à l'extérieur, sport, musique, activité,
les amis,
eh bien les retours, école, les retours sont tout à fait différents. Donc là…
Ce qui doit alerter, c'est quand à l'extérieur du foyer familial, il y a aussi des problèmes de communication, un repli sur soi, c'est ça?
Oui, je crois que c'est un premier élément. C'est un premier élément qui doit alerter.
Ouais. Miel, vous avez traversé une période difficile quand vous aviez 13 ans, je crois. Vous avez été hospitalisé. Vous étiez pourtant entouré de parents aimants et présents. Qu'est-ce qui vous a manqué à ce moment-là?
En fait, moi, pendant toute mon enfance et tout, mes parents, franchement, ils ont toujours été très sympas avec moi, très gentils, très aimables et tout. J'ai jamais eu de...
Aimables.
Oui. Non, mais j'ai jamais eu de soucis particuliers avec mes parents. Et en fait, arrive l'adolescence, justement, on change de pays, enfin, on déménage et tout. J'arrive au collège, ça se passe super, super mal. Harcèlement et tout. Enfin... intense, hein. Franchement, c'était vraiment pas cool. Et en fait, j'ai pas osé en parler à mes parents à ce moment-là. Et à côté, j'avais vécu d'autres choses vraiment pas sympas non plus avec des garçons et tout. Enfin, c'était vraiment compliqué. Mais en fait, même si ma relation avec mes parents était en soi vraiment bonne, enfin, il n'y avait pas de soucis particuliers, il n'y avait pas de grosses disputes, il y avait pas, enfin, c'était pas un environnement
conflictuel.
De tension, c'est ça, de conflictuel. En fait, je pense qu'il manquait quand même cet aspect de... Miel, on a une relation de confiance. Si t'as un problème, si tu fais une bêtise ou un truc comme ça, viens m'en parler et on t'engueulera pas, on t'aidera à t'en sortir et tout. Il n'y avait pas vraiment ce cadre-là qui était créé. Et je pense que c'est ce qui manque, c'est qu'au fil des années, même quand en fait, l'enfant il est enfant, enfin genre même pas avant l'adolescence, de créer cette relation de confiance, ce cadre de confiance, de l'entretenir au fil des années, et surtout de bien le clarifier, je pense, à l'adolescence.
En fait, de le dire.
C'est ça.
Je ne te juge pas et tu peux tout me dire.
Oui, vraiment. En vrai, ça change beaucoup de choses, hein, parce que parfois, les parents, ils le pensent, mais en fait, ils ne le disent pas très clairement. Donc, nous, à l'adolescence, on n'a pas le temps de déchiffrer ce que vous pensez et tout. Nous, on veut juste du clair, concret et on écoute ce que vous dites, voyez.
Ça, c'est important de le dire. Votre histoire, vous l'avez partagée sur les réseaux sociaux. Vous avez reçu des milliers de messages d'adolescents qui se reconnaissaient dans ce que vous avez traversé. Eux aussi, s'ils ne se confient pas à leurs parents, c'est par peur d'être jugés.
Ouais, la plupart, franchement, oui. Je reçois des pavés parfois de jeunes qui m'expliquent leur histoire. Et parfois, c'est vraiment des histoires horribles. Et ils me disent, y a que toi que je peux en parler parce qu'en fait, personne ne me comprend. Mes parents, ils vont jamais me comprendre, ils vont me juger. Eux, ils disent que c'est ma faute ou je sais pas quoi. Enfin, en fait, ils ont une peur monstre du jugement, et surtout à l'adolescence, hein, c'est la peur du regard des autres et tout, mais alors de ses propres parents, si tu dois leur avouer, typiquement, regardez, moi, mon histoire, c'est que je me suis fait harceler parce que j'ai vécu du revenge porn, j'ai envoyé des nudes à un garçon de mon école. Mais quelle est la honte de ma vie de raconter ça à mes parents, mais en fait, les trucs, ils ont été partagés dans toute l'école, c'est pas ma faute, et c'est moi qui ai subi les conséquences de ça. Et j'avais 12-13 ans, je savais pas ce que je faisais.
En fait, vous saviez que vous aviez dépassé un interdit, qu'il fallait pas le faire.
Mes parents m'avaient dit de jamais faire ça, et je l'ai fait. Et du coup, forcément, j'ai peur de leur dire et d'avoir leur réaction, alors que moi, je suis dans un trou horrible, je suis dans la merde complètement, je me fais harceler tous les jours à l'école. Mais j'ai trop peur de leur dire parce que j'ai peur qu'ils me jugent. Et au final, ils ont tout appris sur un lit d'hôpital, donc c'est pas mieux, tu vois.
Évidemment.
Mieux dire avant, prévenir que guérir.
Mais c'est la raison pour laquelle vous avez créé cette appli qui s'appelle Link, je le rappelle. Vous l'avez créé avec votre père et avec un médecin psychiatre.
Ouais.
Quels sont les retours que vous avez sur cette appli aujourd'hui ?
On a beaucoup de bons retours. Aujourd'hui, il y a près de 300 000 utilisateurs sur l'application, donc c'est vraiment énorme. Et je pense que ça montre surtout la demande pour ce genre d'outils. Les jeunes, ils adorent l'appli. En plus, on a fait en sorte de créer une application 100% gratuite pour eux. C'était vraiment important pour nous. Et après, il y a de plus en plus de jeunes qui se connectent avec leurs parents sur l'app. Et globalement, on a des bons retours. Après, on continue de faire évoluer l'application. Là, il y a les 1 an de Link qui arrivent. On prépare de grosses nouveautés.
On a hâte.
Moi aussi.
C'est une application, c'est une safe place, comme disent les jeunes. Voilà, un endroit où ils se sentent en sécurité, où ils peuvent communiquer, notamment avec un adulte de confiance. Et vous avez imaginé aussi, pour eux, des vidéos de prévention. On écoute.
La dépression.
Papa, maman, je pense vraiment vivre une dépression. C'est pas juste un coup de mou, ça fait plusieurs semaines que ça dure.
Ça va, Miel, ça c'est la crise d'adolescence, ça va passer, t'exagères un peu là.
Mais non, j'exagère pas, je me sens vide, j'ai une mauvaise hygiène de vie, je vois plus mes potes, j'ai des troubles du sommeil et j'ai même des pensées noires.
Waouh, tout ça ?
Et oui, la dépression est vraiment une maladie psychique. Si tu te reconnais dans ces signes, il est important que tu puisses trouver du soutien rapidement.
J'en ai marre, hein, d'être comme ça, vous savez, moi aussi j'aimerais bien être heureuse, contente et tout, mais j'ai l'impression que j'ai même pas votre soutien.
En tant que parent, il est primordial de rester à l'écoute et de surveiller des signaux d'alerte tels qu'une perte d'appétit, un trouble alimentaire et des propos suicidaires. Si vous observez ces signaux-là, il peut être vraiment utile de consulter un professionnel de santé.
T'inquiète pas ma fille, on va t'aider, c'est promis. On va faire des efforts.
Ça va aller mon cœur, je le promets.
Ces messages de prévention sont indispensables et quand ils sont dispensés par une créatrice de contenu qui est très populaire auprès des ados, forcément, ça a un écho encore plus important. Docteur Laure Gessler, cette idée de personne de confiance, est-ce qu'on peut revenir là-dessus ?
Oui, je trouve que c'est important parce que si ça marche aussi autant sur les réseaux, ça prouve vraiment aussi qu'il y a des jeunes qui sont très esseulés, qui n'arrivent peut-être pas à communiquer avec leurs parents. Leurs parents, ils font comme ils peuvent avec l'éducation qu'ils ont eue. Ils ont des fois, faut rentrer dans notre vraie vie aussi. Voilà, on bosse, on finit des fois tard, on est moins dispo, même si on met beaucoup de bonne volonté. Et je pense que c'est important de signaler aux parents que s'ils ne sont pas en mesure de parler de choses, parce qu'eux-mêmes, peut-être dans leur vie perso, ils ont vécu des choses qui n'étaient pas simples et que ce n'est pas des bons souvenirs, etc. Ils doivent nommer, entre guillemets, mais même verbaliser une personne de confiance, comme vous l'aviez dit, Yasmine, tout à l'heure. La personne de confiance, ça peut être notre frère ou notre sœur, ça peut être notre médecin traitant, ça peut être, là, je sens que tu vas pas bien, quand tu seras prêt à m'en parler, reviens vers moi, ou alors si tu veux, je t'emmène aux consultations jeunes consommateurs ou à la maison de l'ado, enfin, peu importe, en tout cas, valider, peut-être même limite ça en amont, si on peut, dire, à ton avis, toi, si un jour t'as des soucis, avec qui t'aimerais en parler, moi, sache que j'ai pas besoin de tout savoir, j'ai pas besoin d'être là, mais par contre, tu peux compter sur moi pour t'y emmener.
Ce qu'on peut partager ou pas avec son ado, on va en parler. Avant ça, Miel, on va vous dire au revoir, puisque vous avez d'autres vidéos de prévention à tourner pour votre application Link. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour porter une fois de plus la voix des ados, et on rappelle donc cette application Link pour favoriser le dialogue.
Grand bien vous fasse. Yasmine Oubis sur France Inter.
Alors maintenant que nous avons compris les chamboulements intérieurs que traversent nos ados pendant ce passage qu'est l'adolescence, on va se demander ensemble comment entrer dans leur monde. Faut du dialogue, faut être patient. Ok, mais quand même parfois c'est dur.
Attends, moi je vois rien. Tu permets, Emma?
En gros, j'ai été refusée dans toutes les classes prépa, il n'y a pas à chercher.
Même
je suis sur liste d'attente.
Non, tu n'es que sur liste d'attente? Pour tout?
Bah ouais, j'ai pas trop compris.
Et du coup, j'ai été acceptée qu'en cinéma. Coucou.
Mais non.
Droit à Brive.
De l'éducation aussi à l'Institut catholique.
Oui, en gros, c'est psycho.
C'est un choix sans être un choix, quoi.
Bon, de toute façon, j'ai rien à foutre parce que j'ai mon vœu que je veux, là. Tu commences à m'énerver, tout ça, parce que j'ai pas les classes
prépa. Mais ça va, non?
Mais ça, parce que j'ai pas les classes prépa, ça m'énerve. Non, mais un peu plus, on dirait que tu vas te décomposer, que c'est la fin de ta vie.
Non, c'est pas la fin de ma vie, c'est que effectivement, ça te contraint dans un seul choix, c'est tout.
Eh ben oui, mais comme c'est celui qui plaît le plus. De toute façon, ça ne te concerne pas, tu ne
sais pas. Ça me concerne pas, mais je suis désolée, c'est moi qui finance les études quand même, non? Ça me regarde.
De toute façon, je veux cinéma.
Je voudrais savoir combien tu es sur les listes d'attente ailleurs.
Oui, ben d'accord, mais tu sauras pas pour l'instant, parce que cela, ça m'énerve. T'as qu'à te réjouir déjà pour ce que j'ai, et après on verra. Non, mais attends. Enfin, tu sais, c'est cool ça, en fait, hein. C'est cool de prôner la tolérance des parents et tout, et qu'au final, toi, tu te retrouves même pas à féliciter que ce que j'ai eu, hein, c'est bon.
Disons que ça ne te laisse aucune alternative.
Mais puisque c'est ce que je veux faire, putain, on s'en fout. Non, ça va.
Un extrait de l'extraordinaire documentaire adolescente de Sébastien Lifshitz. Anne-Claire de Pracontal, quand on monte comme ça, on veut bien être patient, être ouvert au dialogue, mais c'est pas facile.
Non, c'est pas facile. En tout cas, ça rejoint effectivement ce que disait Miel tout à l'heure de cette incompréhension, enfin de ces ados qui se plaignent du coup de ne pas être compris par leurs parents, etc. Effectivement, souvent les parents peuvent avoir des réactions comme ça un peu épidermiques, pas forcément très empathiques, où ils vont rajouter de la pression à la pression, où chacun va être un peu campé dans son champ de vision, etc. Là, c'est sûr que c'est le dialogue, tout d'un coup, il va se verrouiller et le lien va être un petit peu abîmé.
Quelles sont les clés pour le déverrouiller, ce dialogue?
En tout cas, je trouve que, comme dans n'importe quelle clé de communication, comme dans n'importe quelle relation, d'ailleurs, c'est tout simplement déjà d'être un tout petit peu dans l'empathie et dans le je comprends et d'être vraiment à l'écoute. En fait, souvent, et je comprends aussi très bien, c'est pas forcément facile d'être à l'écoute des adolescents et de leurs problèmes et de leurs difficultés, etc. Mais en fait, tout simplement de commencer par je comprends, ou alors faire l'effort de se souvenir, comme on disait, que nous-mêmes on est passé par là, que nous-mêmes on a eu des difficultés, etc. Et en fait, on n'avait pas forcément envie d'entendre ça ou ça, mais on avait besoin de soutien, d'écoute, d'une certaine ouverture, qu'on se fasse pas envoyer balader, parce que en fait, les parents, ils ont eux-mêmes leur pression, leur peur.
On sent bien dans cette scène-là que la maman, elle est bien désolée par rapport à ce qui se passe, mais évidemment qu'elle s'intéresse à son adolescente. Antoine Perrier, vous devez voir ça tous les jours, des parents qui ne sont pas compris par leurs enfants et réciproquement. Alors, ouvrir le dialogue, c'est parfois très difficile.
Et c'est difficile parce que, un peu à l'instar de ce qu'on vient d'entendre, il y a parfois une sorte de face à face en miroir dans le jeu d'inquiétude. Je crois que l'adolescence est un moment de vulnérabilité où il s'agit de reconstruire des assises, une estime de soi, un sentiment de sa propre valeur. Il y a des tas d'événements dans la vie scolaire, dans la vie relationnelle, dans la vie amoureuse qui fragilisent. Et souvent, les choses dérapent un petit peu lorsque, face à l'inquiétude de l'ado, qui ne se dit pas toujours,
oui.
qui peut prendre la forme d'une exaspération, mais je m'en fous, mais de toute façon, c'est mon problème, c'est pas le tien.
Il faut voir autre chose que ce que cette exaspération.
Oui, je crois qu'il... De façon générale, il y a toujours dans la radicalité de l'adolescent quelque chose d'une vulnérabilité qui se vit. Il y a toujours de l'insécurité derrière les comportements les plus provocateurs, les plus agressifs, les plus rebelles. Et c'est ça qu'il ne faut pas lâcher en tant que parent, cette vision-là.
Il faut garder ce mot « vulnérabilité » vraiment ancré pour les comprendre et pour... C'est notre grille de lecture, finalement.
Oui, et puis, justement, je crois que les parents, aujourd'hui, sont beaucoup plus soucieux du bien-être de leurs ados qu'ils n'ont pu l'être à une époque. Mais, du coup, ça crée parfois des inquiétudes. Et même si c'est un peu tarte à la crème, eh bien, il y a quand même cette dissymétrie qui est que c'est pas aux ados de rassurer les parents.
Mmh.
C'est l'inverse.
Bon, ça nous... Voilà, ça n'aide pas trop, mais merci beaucoup. Docteur Laure Gessler, l'adolescence, c'est l'âge aussi de l'apparition des complexes. C'est quelque chose que vous devez voir, vous, en cabinet.
Ouais, c'est terrible parce que c'est renforcé aussi beaucoup avec cette ère des réseaux sociaux, des filtres, de la comparaison. Il y a toujours eu ça, hein. Il y avait déjà ça.
La comparaison.
La comparaison aux autres et puis à des images qu'on peut avoir de modèles qui sont pas du tout réalistes en réalité. Donc il peut y avoir des complexes. Je pense que c'est important à nous parents de se dire qu'on doit développer ce qu'on appelle les compétences psychosociales de nos enfants. En fait, les compétences psychosociales, c'est ce qui va faire que l'enfant va gagner en prise de décision, savoir dire non, savoir aussi avoir une meilleure gestion de ses émotions, aussi dans ses relations aux autres. Et pour ça, en fait, typiquement, par rapport au complexe, par rapport à l'image des autres, ça doit se présenter dès la petite enfance, même si déjà, nous, on arrive à montrer l'exemple, à pas trop dire, finalement, moi, je me trouve trop ci ou trop ça, ou quand j'ai un bouton, ça peut arriver aux adultes, ça arrive d'ailleurs souvent aux adultes, ne pas en faire un drame et dire, ça, c'est la vie, c'est pas grave de ressembler à des icônes, déjà, nous, on fait entrer ces compétences psychosociales dans la vie du jeune. Et autre chose que je voudrais ajouter, c'est que c'est pas simple, mais l'idée, c'est de nommer les émotions et de nommer nos besoins. Des fois, en consultation, quand il y a vraiment des ruptures un peu du lien entre les parents et les ados, ce que j'invite à faire, c'est un petit exercice, c'est pendant, on se donne 10 minutes, un quart d'heure, par exemple le lundi soir, et c'est l'ado qui parle, et on l'écoute, et on dit rien. Et pendant un quart d'heure, on lui dit, écoute, dis tes émotions et tes besoins. Et l'ado, souvent, il va dire, c'est caricatural, mais il va peut-être dire, j'ai de la colère, je me sens incompris, moi j'aurais besoin que vous me laissiez seule sortir chez un tel et chez Bidule. Et le lendemain, on inverse les rôles et c'est le parent qui parle et qui dit la même chose. Et souvent, le lendemain, le parent va dire quelque chose de l'ordre, moi j'ai besoin d'être rassurée, d'avoir encore confiance, etc. Et mes besoins sont là, mes émotions sont là, parce que peut-être j'ai de la peur, je me soucie. La question de Parcoursup et tout ça, c'est des réelles angoisses pour les ados et pour leurs parents. Mmh. Et je pense qu'à ce moment-là, par exemple, quand on parle de choix décisifs de carrière, entre autres, on peut dire, moi j'ai peur pour ton avenir, comment est-ce que je peux être rassurée? Est-ce que si tu pars sur cette branche-là, et que tu suis toi tes besoins, tes émotions, est-ce qu'on ne ferait pas par étapes, ou est-ce que je peux t'aider comme ci, comme ça, etc.
Donc c'est vraiment toujours créer cet espace de dialogue dans la mesure où il accepte de communiquer. Je voudrais qu'on s'arrête sur un message qu'on nous a envoyé ce matin. C'est un message de Pierre qui dit « Mon fils, 17 ans, ne parle plus depuis 8 mois dans le cadre d'un divorce compliqué. Il vit chez sa mère et il est déscolarisé. Malgré le fait de tenter de prendre ses nouvelles, d'essayer de l'appeler, tout est vain, je ne sais plus quoi faire. » Antoine Perrier, quand le dialogue est rompu, comment faire ?
C'est difficile. Dans cet exemple, je pense que ça doit être très dur pour ce... Pour ce papa, que faire? Parfois mettre un peu des tiers pour essayer d'ouvrir un petit peu le dialogue sur les difficultés s'il y a une tension particulière avec ce papa du fait du divorce. Mais de façon assez générale, je crois qu'il faut être capable de patienter, c'est difficile.
Mais c'est... de signifier quand même sa présence bien et sûr, de continuer à se manifester.
Absolument, absolument. Mmh. C'est ingrat d'être parent. Hein. C'est pas un retour sur investissement immédiat. Il faut être capable de patienter, de différer, parce que justement, l'ado, lui, n'en est pas capable, ou en tout cas n'en est que progressivement capable. Dans l'adolescence, c'est un peu la tyrannie de l'immédiat. C'est maintenant, plus tard, je sais pas ce que c'est. Donc il y a... Il y a des émotions qui emportent, et c'est important que les adultes, par rapport à ça, puissent, eux, se donner du temps et donner du temps à l'ado. Mmh. Je crois que c'est important aussi, dans des moments de conflit, de ne pas réagir à chaud, de pouvoir ne pas trop différer, mais différer un petit peu. Il y a des choses dont il vaut mieux parler.
Donc de la patience, de la nuance, voilà, il faut tempérer, ça on l'a bien compris. Ce que j'aimerais aborder aussi, c'est l'importance des règles, l'importance du cadre dans cette période de la vie. Certains parents sont parfois tentés d'instaurer une relation de, pas d'amis, mais voilà, une relation sans contrainte. Qu'est-ce que ça peut générer, ça, chez un adolescent ou chez l'adulte qui sera plus tard ?
Ben, je crois que ça peut générer... de l'angoisse. De l'angoisse, un sentiment d'être un peu lâché, abandonné, soit à son désarroi, soit à sa toute-puissance, les deux. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, encore une fois. Un adolescent a besoin de s'autonomiser, mais il a besoin de trouver, chez les parents et chez les adultes, de quoi... enfin, des ressources pour s'appuyer. Et ces ressources, elles participent des règles dont il a besoin. Je crois que ces règles, même si parfois il vient taper dedans, les repousser, tester les limites, elles sont rassurantes.
On a compris, il faut donc un cadre, mais il faut discuter. C'est toujours, voilà, être tiraillé en parent ado, c'est vraiment un rôle d'équilibriste. Parlons un instant de l'importance de s'intéresser, et on l'a déjà évoqué, mais on va y revenir, aux passions de nos ados. Ça demande une grande faculté d'adaptation. Quand leur idole, c'est par exemple un artiste qu'on ne connaît pas du tout, dont on n'aime pas forcément la musique, mais qu'il faut aller acheter les places de concert dès l'ouverture du point de vente. Encore faut-il savoir comment il s'appelle.
T'as demandé quoi, papa ?
Vous avez des places pour Jules. Jules, comment qu'ils m'ont dit ?
Anne-Claire de Pracontal, partager leur musique, apprendre à connaître les artistes qu'ils aiment, c'est un effort à faire.
Oui, c'est un effort. Alors déjà, c'est comme on disait tout à l'heure, à nouveau, se souvenir, nous aussi, on n'était pas forcément mieux et nos idoles à nous, c'était pas forcément plus riant. Il n'y a pas forcément de quoi être plus cher. Mais oui, je pense que c'est hyper important. En plus, on peut être surpris. Il y a des super idoles, des super personnes qui suivent, des super comptes qui suivent sur Instagram. Voilà, mais c'est important de quand même se renseigner, de pas vivre dans deux mondes parallèles, mais de partager, de s'enrichir, voilà, que eux, ils nous montrent ce qu'ils aiment et que nous, on leur partage ce qu'on aime. Et de trouver des ponts comme ça entre eux et nous, c'est important.
Alors l'importance du partage, mais avant de commencer cette émission, vous m'avez dit on partage, mais on ne partage pas tout. Antoine Perrier.
Mais je pense également que c'est important de s'intéresser au monde de l'ado, oui. C'est même capital. Oui. On n'est pas obligé d'aimer la même chose que lui, on n'est pas obligé d'être pareil, d'ailleurs on ne l'est pas, mais de s'intéresser est vraiment quelque chose d'important.
Bah, de toute façon, on le voit, dès qu'on le fait, ils ont un regard qui s'éclaire et on est tout de suite récompensé par cet effort.
Oui, ça c'est vraiment très important parce que ça participe justement de... Cet intérêt participe de cette confiance dans les ressources créatives de l'ado. Et ça c'est capital, ouais.
Donc que vous aimiez ou pas Jules, voilà, ça vaut le coup de s'y intéresser, que ce soit Jules ou un autre, il y a des aspects positifs, c'est comme les réseaux sociaux. Anne-Claire de Pracontal, vous vouliez réagir ?
Non, mais effectivement ce que vous disiez est quand même ce fameux équilibre entre s'intéresser et respecter le jardin secret des adolescents quand même, et respecter qu'ils peuvent tout nous dire, ne pas forcer, ne pas être trop intrusif, etc. Enfin, c'est tout un art.
Ce jardin secret, on s'y arrête un instant, il y a des limites. C'est bien ça.
Il y a des limites. C'est un jardin secret, évidemment, mais en même temps, c'est ne pas se couper. Enfin, c'est quand même garder ce lien. Et c'est quand même continuer à se poser des questions, c'est quand même continuer à échanger, etc. Mais en même temps, ne pas forcer. Ne pas forcer parce que ça ne marchera pas comme ça.
Yasmine Ouglis.
Comment t'as pu
Imiter ma propre signature pour Charlotte, mais qu'est-ce qui se passe?
Grand bien vous fasse.
Écoutez, madame Lepic.
Non, écoutez, quand j'étais petite, monsieur, jamais je ne me serais permise de faire le dixième de ce qu'elle a fait.
Sur France Inter.
Je veux pas aller là.
Tu te tais!
Les adolescents n'ont pas bonne presse dans notre société, souvent qualifiés de flemmards, rarement mis en valeur. Ils sont décrits par leurs aînés comme des êtres très étranges qu'on ne comprend pas, alors qu'eux-mêmes ont été ados. On remonte le temps et on retombe en l'an 2001. Ça va peut-être vous rappeler des souvenirs.
Tête baissée, Fabienne a foncé dans l'univers des SMS, les télémessages.
Quand on est pris dans une discussion, et ben, on regarde plus en fait le nombre de messages qu'on écrit, donc... Ça peut aller très vite.
Ainsi, à Saint-Étienne, elle vécut pendant un mois de messages et d'eau fraîche. Jusqu'au jour où, dans la région parisienne, une méchante lettre arriva chez ses parents. 2000 francs à payer, au lieu de 350.
9 pages, et il y a donc 2 pages de téléphone et donc 7 pages de télémessage.
Le père, un redoutable statisticien, recensa une moyenne de 20 messages par jour. La colonne horaire était riche d'enseignements sur la vie nocturne de sa fille.
De 0h44... à 4h07.
C'est une vraie mitraillette. Hein. Toutes les 3 minutes, elle envoie un message.
Je ne sais pas pour vous, mais nous, dans le studio, ça nous a rappelé des souvenirs de ces factures de téléphone qu'on redoutait quand nous étions ados. Docteur Laure Gessler, nous, c'était le téléphone, c'était les SMS. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux.
Ouais, c'est les réseaux sociaux, avec tout ce qu'il y a de bon et de mauvais dans les réseaux sociaux, mais j'insiste sur les deux. Je pense qu'il faut être conscient qu'effectivement, il y a des fake meds, il y a des trends qui sont mauvaises.
C'est quoi des fake meds, pardon?
Ce qu'on appelle des fake meds, pardon, c'est des infos qui sont mauvaises, des fake news, mais liées à la santé notamment, santé mentale. Des fois même des concours, ce qu'on a pu entendre ce matin dans les infos, c'est terrible. Et pour ce qui est de notre communication avec nos jeunes, il faut vraiment aussi leur apprendre à avoir ces regards critiques sur ce qui peut se passer sur les réseaux. Par contre, il y a aussi des bonnes choses, et ça c'est important de le signaler. Moi, il y a 4-5 ans, quand j'ai créé ma chaîne Le Cœur Net, je me suis lancée même sur TikTok pour toucher les plus jeunes, et j'ai rencontré des jeunes hyper créatifs qui redoublaient d'intelligence et d'humour, et je pense que c'est important de... D'ailleurs, ils ont beaucoup de chance de remarquer que ces jeunes, eh ben, avec entre guillemets, pas grand-chose, des outils assez faciles qu'on peut avoir sur le téléphone. Ils peuvent créer un court-métrage, lancer des comptes énormes avec beaucoup de rire et de partage. Et ça, je trouve ça hyper, hyper respectable.
D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut faire avec eux, hein, de créer.
Ouais, et je pense qu'en tant que parent, on doit mesurer tout ça. On parlait de cadre tout à l'heure. Est-ce que toutes ces notions de cadre, on ne peut pas en parler avec nos jeunes. Dire, qu'est-ce qui est faisable? Tu as besoin de ce monde-là, ce monde connecté, et c'est normal. Mais qu'est-ce qui va faire que ça n'empiète pas sur notre vie de famille? Est-ce que les téléphones, par exemple, à table, à l'heure du repas, c'est indispensable? Je ne pense pas. À l'inverse, est-ce qu'on ne peut pas mettre des protections sur le téléphone pour éviter qu'il y ait trop de... Ou même couper le wifi. Enfin, chacun a ses limites. Hein, mais vous voyez, pour pas que ça empiète sur notre vie sociale, parce que ça reste le plus important.
Toujours dans cet esprit du dialogue, voilà, ouais. Parler des craintes, mais aussi les rassurer. Anne-Claire de Pracontal, je crois que dans le cadre du suivi de vos patients, vous les invitez souvent, les parents, à se rappeler de l'ado qu'ils étaient.
On aime bien faire ça, on fait beaucoup ce petit jeu avec les parents, soit qu'on, lors de nos conférences, ou alors quand on accompagne les parents en individuel, de vraiment les inviter avant toute chose à se reconnecter à l'ado qu'ils étaient. Donc prenez un petit moment, fermez les yeux, reconnectez-vous à l'ado que vous étiez, souvenez-vous en fait, c'était il n'y a pas si longtemps ça va venir comme ça stimuler l'empathie, leur empathie à l'égard de leur enfant, et souvenez-vous de quoi aviez-vous peur, de quoi avez-vous besoin, quelle était votre grande difficulté, qu'est-ce que vous aimiez, qu'est-ce qui vous faisait qu'est-ce que vous attendiez de vos parents, qu'est-ce qui vous faisait du bien dans votre relation avec vos parents, pour vraiment se mettre un peu en connexion et se mettre en empathie.
Je pense que c'est vraiment le mot clé, hein, finalement, oui. Comme quand Antoine Parier vous parliez de se rappeler aussi de leur vulnérabilité. Pour conclure cette émission, j'ai quand même l'impression que le temps passe, les époques se succèdent, mais que finalement, les enjeux inhérents à cette période de l'adolescence restent les mêmes au sein de la famille.
Oui, de ce point de vue-là, je crois que les enjeux restent les mêmes, mais comme le disait Laure, il y a une société qui évolue, il y a aussi, du coup, notamment avec les réseaux sociaux, un univers des adolescents qui évolue aussi, et encore une fois, il est important que, tout en leur laissant un espace, les parents puissent s'y intéresser et ne pas être complètement ignorants de ce que font leurs ados. C'est aussi cet intérêt, une condition de la légitimité qui permet d'instaurer des limites, la légitimité qui leur fait autorité. Je crois que si en tant que parent, on ne s'intéresse pas, si on est ignorant de ce qui se passe, il est difficile, à partir de là, d'imposer des limites qui aient du sens pour l'ado.
Je pense qu'on peut, pour conclure, s'arrêter sur deux mots. Comme eux le font, restons connectés, finalement. Voilà, on va utiliser ce mot de connexion. Restons connectés à nos enfants. Merci infiniment à vous quatre. Je remercie Miel Abitbol, même si elle nous a quittés, d'être venue nous éclairer sur ce passage de la vie qui est à la fois mystérieux et qui nous ramène, nous, voilà, parents, à notre propre adolescence. Anne-Claire de Pracontal, vos conseils pour que cette relation avec nos ados se passe sous les meilleurs auspices sont à retrouver dans votre livre coécrit avec Eric Assédou, Je ne sais plus quoi faire avec mon ado, édité chez Marabout. Docteur Laure Gessler, je rappelle le nom de votre podcast, Le Passage, disponible sur toutes les plateformes, et votre indispensable newsletter Le Cœur Net, à laquelle on peut s'abonner gratuitement. Merci Antoine Perrier, on vous laisse rejoindre les ados de la Maison des Ados.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.